chroniques de littérature paysanne à mes Mahmoud Alaya. Adieu, bonsoir Mahmoud.
Adieu, adieu Sias.
Alors, veille, on tourne à veiller un peu un personnage des grands, des belles. Voli parlare d'un giornalista e un grande testimone della vita paesana che è Émile Guillaumin, Guillaumin in francese. Allora, del primo, potes rappelare un po' qual è quel Émile Guillaumin?
Oui, il faut rappeler parce que bon, c'est un personnage très important. Il est qualifié souvent de sage dit grande, le sage dit grande. Parce que Émile Guillaumin est né à Ygrande, dans l'Allier, au domaine du Grand Neuverdière, le 10 novembre 1873. Et puis, il est mort le 27 septembre 1951. Hein, comme on est aujourd'hui le 27 septembre, cela fait aujourd'hui 60 ans, jour pour jour.
60 ans que définit Émile Guillaumin.
Voilà. Alors, Ygrande, c'est un petit village du bocage bourbonnais, situé à quelques kilomètres de Bourbon-l'Archambault, dans l'Allier. Et Émile Guillaumin, il fréquenta l'école publique jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, il s'employa aux travaux des champs. Et il n'a jamais quitté son village natal, sauf pour les armes, pendant la Grande Guerre. Il est fils et petit-fils de paysans métayers à la ferme de Neuverdière. Et c'est par un travail acharné et une persévérance sans égale qu'il a voulu compléter son instruction primaire. Alors, il travailla la terre le jour et le soir, il lisait à la bougie. Une idée de roman lui trotte dans la tête. Il connaît, lui, la dure condition des métayers face aux fermiers généraux et aux propriétaires. Et il découvre le livre « Jacou le croquant ». « Jacou le croquant », c'est un célèbre roman d'Eugène Leroy sur la révolte paysanne sous la Restauration. Alors, la lecture de ce livre le conforte dans sa voix et se met à l'ouvrage et publie un livre « La vie d'un simple » intitulé « La vie d'un simple » en 1904. Alors, ce livre fait l'effet d'une bombe dans les milieux littéraires parisiens et manque de peu le prix Goncourt. En effet, avant Émile Guillaumin, aucun paysan n'avait tenté de raconter sa vie, son monde, ses travaux, ses joies, ses peines.
Mais Béléo, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'écrire, tout simplement.
Oui, mais il pensait aussi que ça n'intéresserait pas les gens, hein, donc, parce qu'ils sont un peu au bas de l'échelle sociale, et puis les gens, bon, ils regardent plutôt vers le haut et tout ça, bon, alors qu'ils étaient majoritaires dans la société, et bon, les paysans, bah, qui s'intéresse aux paysans? Alors, Émile Guillaumin, il a été avec d'autres paysans aussi, notamment Michel Bernard, un acteur du syndicalisme rural, luttant pour l'émancipation paysanne et la justice sociale. Il a consacré plusieurs ouvrages au syndicalisme, notamment le syndicat de Beauginiou, qu'il a publié en 1912, et Panorama de l'évolution paysanne de 1875 à 1935, ainsi que de nombreux articles dans la presse nationale ou régionale et dans le bulletin local qui s'intitulait Le Travailleur Rural, qu'il a animé pendant plusieurs années. On va parler un peu de ses écrits en tant que journaliste. Il a publié évidemment plusieurs ouvrages, dont je cite quelques-uns. La vie d'un simple, en 1904. Près du sol, 1906. Baptiste et sa femme, en 1909. À tout vent sur la glèbe, en 1931. Et puis, paysans par eux-mêmes, là c'est un ensemble de lettres qu'il a reçues de ses amis, de ses confrères, et qui ont été collectionné, enfin mis ensemble dans un ouvrage qui donne une image des conditions et des luttes et des espoirs des paysans de l'époque.
Mmh.
Voilà. Bref, on va dire que ce fut un paysan, mais aussi un syndicaliste, un sociologue de la vie rurale et un romancier de notoriété nationale, voire internationale. D'ailleurs, plusieurs livres ont été écrits sur Émile Guillaumin. Il y a aussi une association, depuis 2005, il y a une association des Amis d'Émile Guillaumin qui a pour objectif de faire connaître son œuvre et sa pensée. Alors, je donnerai pour les contacts deux adresses. Il y a l'adresse d'abord pour l'association des Amis d'Émile Guillaumin. C'est, il faut, si on veut, enfin, les gens intéressés peuvent écrire à bernard.farinelli@wanadoo.fr. Hein, je répète, bernard.farinelli avec deux L, @wanadoo.fr. Et une autre adresse, c'est l'Association des écrivains paysans. Donc là, c'est, ils ont un site internet, www.écrivain au pluriel avec S, -paysan avec S.com. Je répète, www.écrivain avec S, -paysan avec S.com. Voilà. Alors sur ces deux adresses, on peut avoir plus d'informations que ce que on va dire dans les quelques minutes que nous avons. Alors, dans une précédente émission, nous avons présenté le chef-d'œuvre d'Émile Guillaumin, qui s'appelle donc La vie d'un simple, qui est en édition de poche, hein, disponible. Mmh. Wow. C'est un roman fantastique. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'Émile Guillaumin comme journaliste et grand témoin de la vie paysanne, après une pause musicale.
Eddie! Ah! Wow!
Det passat i bovjajri sa ušami na lubla. Šor biste tu na lajri, lušu girili ba. Jefriža, aronka la sušizo, Kistu fulu bungo, e shamina la shilo, ki bien leu le baro. Fai buna shamina do, e con listi ubendro. Ta recolti pisado, Dio la prutizaro. La terre ibuna maire, za maito di liscia. Profita ni buriaire, L'autre barrigija. Ah, frija. Voilà.
Thank you.
Qui extrait de l'album Musique des Pays Salers, un album Amta, avec pu écouter René Roche qui nous cantava Despachoté Bourgaire, Dépêche-toi la bourreur, vuol dire. Bah, qui. Donc, Neren a parlé d'Émile Guillaumin, alors le grand testimoni paysan.
Voilà, voilà. À côté donc de ses romans, Émile Guillaumin a écrit dans de multiples journaux nationaux comme Le Monde ou L'Humanité, ou dans la presse locale de plusieurs régions comme le Journal du Centre, le Courrier de l'Allier, la Tribune républicaine, les Dernières Nouvelles de Strasbourg, aujourd'hui ça s'appelle les Dernières Nouvelles d'Alsace, le Petit Niçois, etc. Il écrivit également de nombreux articles dans les organes syndicaux, et particulièrement Le Travailleur Rural. Hein, c'est un bulletin local dont il a dirigé la publication entre 1906 et 1911. En tout cas, dans ses articles, comme dans ses romans, il a été un paysan chroniqueur, chroniqueur des campagnes, décrivant le monde rural de l'intérieur, à partir d'observations faites dans sa vie courante, des conversations avec ses voisins, ou des correspondances entretenues avec d'autres paysans. Ses écrits soulignent toujours son attachement à la terre natale et portent en même temps un message universel d'humanisme et de sagesse. Son œuvre est empreinte d'une immense pitié pour les pauvres gens, ceux pour qui tout est peine et misère. Dans une de ses premières lettres au directeur d'un journal, il demande à celui-ci de publier sa pièce intitulée « Aux riches », dans l'espoir, dit-il, de se rendre un tout petit peu utile à la société. Et il poursuit, je le cite, « Si mon travail peut faire réfléchir une seule personne, s'il détermine un seul mouvement de charité, eh bien j'aurai le droit d'en être fier. Je crois que c'est le devoir de chacun aujourd'hui. » Il parlait à son époque, en 1900, de provoquer la pitié des grands pour la misère et retarder le plus possible, sinon empêcher, les catastrophes que l'on prévoit. Alors, c'est en 1902, on est en 2011. C'est encore vrai. C'est encore vrai. Alors, pour ça, je dis que c'est un message universel. Alors, pour illustrer ces propos, je voudrais lire un court extrait d'une de ses publications qui a pour titre « Émile Guillaumin en Bourbonnais » et qui porte sur les différentes catégories de travailleurs de la terre. Il les a pris les domestiques, les journaliers, etc., etc. Et là, je vais lire un petit passage sur les métayers, parce que ses parents étaient métayers et connaissaient particulièrement cette profession. Alors, je le cite. 9 fois sur 10, les métayers sont des sujets. On ne peut voir en eux des hommes libres. Au point de vue matériel, on leur fait des conditions telles qu'ils ne peuvent que végéter misérablement. Au point de vue moral, on viole à chaque instant leur conscience. On leur fait des baux d'un an, renouvelables. Et certains trouvent cette coutume fort juste, car elle permet aux métayers de se retirer quand ils le veulent et aux maîtres de leur donner congé quand cela leur plaît. Ça paraît juste, mais il dit, je le cite, « Je la trouve, moi, toujours, enfin, très immorale, en raison du fait que les maîtres peuvent changer à tout propos les conditions primitives, augmenter l'impôt colonique que payaient les métayers. » Par contre, les métayers ne tiennent pas à se déplacer à tout propos. Le changement de ferme est toujours cause d'ennuis et de frais considérables. Ils préfèrent à ce moment-là souvent accepter les conditions injustes et rester là où ils sont. Il dit, le propriétaire ou son représentant ne devrait s'occuper que des questions de gérance et d'exploitation, de ce qui touche aux intérêts du domaine, sans empiéter sur la vie intime des paysans, des métayers, et sans peser sur leurs convictions politiques ou religieuses. Mais il n'en est pas ainsi. La plupart des gros châtelains subventionnent dans leur village au moins une école libre, où, bien entendu, les métayers sont forcés de faire élever leurs enfants. Il ne leur est pas permis de lire d'autres journaux que La Croix, qu'on leur distribue gratuitement chaque dimanche, à l'issue de la messe, ou quelques petites feuilles locales « bien pensantes », entre guillemets. Et il note, il est vrai que cela ne produit pas toujours l'effet qu'en attendent les châtelains. À preuve, cette boutade d'un métayer à un de ses amis qui s'étonnait de l'entendre développer des idées républicaines. Elle lui dit, mais mon cher, j'ai pris l'habitude de lire mon journal à l'envers. Voilà. Ah. Enfin, en temps d'élection, on leur donne l'ordre de voter pour M. Untel, ou du moins on leur laisse entendre qu'il convient de voter pour lui. On veut prouver à de pauvres diables sans ressources qu'ils ont les mêmes intérêts que leurs maîtres millionnaires et que leurs frères de l'industrie sont leurs ennemis. Bien plus, il est encore des localités très féodales où les gardes particuliers, le jour du vote, distribuent aux électeurs à la porte de la mairie les bulletins à mettre dans l'urne. On est en 1902, c'est pas si loin. Hein.
Oh.
C'est pas si loin, voilà. Donc, les métayers sont donc soumis à une contrainte morale, je continue, hein, c'est, je le cite, à une contrainte morale de tous les instants. Et envers ceux qui ne veulent pas se plier à l'obéissance servile, qui montrent des velléités d'indépendance, ils sont rares d'ailleurs, hein, généralement, le châtelain est un dieu, et le curé son prophète. Alors on agit durement à l'égard de ces gens-là et traîtreusement. On leur donne congé d'abord et on fournit de mauvais renseignements sur leur compte aux maîtres qui seraient tentés de les accepter. On essaie ainsi de les faire mettre à l'index, de les réduire à la misère. Le métayage tel qu'il se pratique actuellement, hein, c'est Émile Guillaumin qui parle, ne saurait être déclaré genre d'exploitation satisfaisant par ceux qui font quelque cas de la liberté, de la dignité humaine. Mais combien sont rares les gens qui, sortis du gouffre, se préoccupent de ceux qui grouillent au fond. Voilà. Émile Guillaumin en Bourbonnais, ce texte a été publié dans la revue hebdomadaire Page Libre en 1902.
Alors, Bézène, à qui est le métayer, le pauvre pagès qui travaille une terre qu'elle n'y appartient pas.
Oh non,
la
non,
terre,
non.
Elle n'y appartient pas.
Ah ben non, justement.
Donc, il travaille la terre. Et
il partage et le produit avec le propriétaire. Mais avec un peu, l'extrait que j'ai donné donne un flash sur l'esprit dans lequel ce sont des contrats, pas écrits. Hein, il peut être mis à la porte à tout moment, hein, on donne congé, si justement il n'obéit pas à toutes les conditions qui sont non seulement matérielles, mais morales, excessives, disons, c'est de l'exploitation, ce sont des sujets, il dit. Hein. Mmh. Et donc, bon, à l'époque, il y avait, il faut dire, 10 à 20% de métayers dans sa région, hein, de 10 à 20% des exploitants qui étaient des métayers. Hein. Donc voilà, ils offraient leur temps de travail et puis ils produisaient, mais sous contrainte
matérielle. Force de travail.
Force contrainte.
Travail.
Et les conditions étaient toujours telles qu'ils restent dans la misère. Ils ne peuvent que végéter misérablement, je le cite. Et ça, je pense qu'il a bien fait d'en parler. Alors évidemment, ce système a quasiment disparu, il était présent dans beaucoup, beaucoup de régions. Mm-hmm. Et bon, c'était variable, disons 5%, 10% des exploitants étaient métayers, mais dans sa région, c'était plus important, c'était 10 à 20%.
D'accord, mais écoute, nous allons écouter une autre extrait de musique des pays Salers
à qui on a une pichotte seguida de bourrailles, me semble.
Voilà, voilà, hein? C'est des musiques d'époque.
Qui les chroniques de littérature paysanne présentées par Mahmoud Alaya.